Toutes les semaines, je t'apporte des trucs et astuces pour t'aider à booster ton français. Depuis le mois de septembre 2022, j'invite aussi des personnes inspirantes, natives et non natives, qui ont un lien de près ou de loin avec la langue française. J'adore ces interviews car égoïstement, moi aussi, j'apprends plein de choses et je termine toujours super inspirée et motivée. Je n'ai donc pas l'intention de m'arrêter là et j'ai une très longue liste de personnes que j'aimerais inviter dans le podcast et que j'aimerais que tu découvres. Et c'est maintenant que j'ai besoin de ton aide. Certains invités de ma liste sont un peu inatteignables et je suis une grande rêveuse et j'ai toujours espoir. Le mot « impossible » ne fait pas partie de mon vocabulaire. Plus ça a l'air impossible, plus j'adore. Alors, afin de pouvoir approcher ces personnes un peu inatteignables et un peu VIP, j'ai besoin de beaucoup plus de visibilité et là, c'est à toi de jouer. Si tu aimes le podcast Le Français avec Yasmine et que tu apprends des choses chaque semaine grâce à ce contenu et que toi aussi tu as envie d'être inspiré par des invités plus, j'ai besoin que tu laisses 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Plus le podcast a des étoiles, plus il sera visible, plus il sera téléchargé et plus j'aurai la chance d'inviter encore plus de personnes inspirantes et le tout encore et toujours 100% en français. J'ai quelques invités de rêve en tête, dont un, allez, je le partage avec toi, mais ça doit rester absolument entre toi et moi. Je rêve d'inviter un jour Bradley Cooper, je le prononce à la française, Bradley Cooper, l'acteur américain, il parle français et je rêverais de savoir comment il a appris le français et s'il continue de pratiquer. Alors aide-moi à inviter Bradley Cooper dans ce podcast en laissant 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Merci, merci, merci. Bienvenue sur le podcast Le Français avec Yasmine. Je suis Yasmine Le Cire, professeure rebelle de français langue étrangère et fondatrice de l'école Island French. Une école qui offre des cours de français pour adultes dans le monde entier. Avec Le Français avec Yasmine, je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle interview du podcast Le Français avec Yasmine. Aujourd'hui, mon invité, c'est Nathanaël. Salut Nathanaël.
Bonjour, bonjour Yasmine.
Comment ça va?
Ça va super bien, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Alors Nathanaël, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter?
Oui, bien sûr. Donc je m'appelle Nathanaël, j'ai 25 ans et j'habite proche d'Aix-en-Provence et je viens de Bourgogne du coup à la base.
Magnifique. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Je suis professeure de français, ça fait maintenant 3 ans. Et en fait, je suis la fondatrice, la créatrice de mon école en ligne qui s'appelle le Voyelia.
Super. Quelle est la particularité de ton école Voyelia, que je prononce correctement cette fois-ci?
Oui, du coup, c'est vraiment l'enseignement en fait, du français langue étrangère. Donc, tout d'abord pour les enfants et aussi en organisme de formation en fait, donc professionnel pour les entreprises. Donc c'est vraiment, voilà, je suis vraiment spécialisée dans l'enseignement du français langue étrangère et j'aimerais développer aussi plus tard l'enseignement d'autres langues grâce à l'école et à l'organisme.
Excellent. Alors je suis professeure de français comme toi depuis un peu plus longtemps. Donc ça fait 15 ans que je donne des cours de français et je donne essentiellement des cours à des adultes. Je ne donne pas de cours de français à des enfants et donc c'est aussi pour ça que je voulais absolument t'inviter dans le podcast. Est-ce que tu pourrais un peu parler de l'enseignement du français pour les enfants qui est un peu différent pour les adultes?
Oui, bien sûr. En fait, c'est vrai que pour les enfants, il faut vraiment capter leur attention. Leur temps de concentration n'est pas du tout le même que pour les adultes. Et du coup, surtout que c'est de l'enseignement en ligne. Donc, il faut vraiment arriver, voilà, trouver des méthodes, des tips, en fait, vraiment pour pouvoir les maintenir concentrés. Et c'est vrai que ce que je fais en général, c'est vraiment de changer d'activité très, très souvent. En général, toutes les 10-15 minutes dans un cours. parce que bon voilà, il y a aussi des différences entre les enfants qui ont 3 ans et ceux qui ont voilà 9, 10 ans ou qui sont ados. Donc du coup, c'est vraiment tout un challenge pour vraiment capter leur attention et qu'ils puissent rester concentrés pendant le cours.
Donc tu donnes des cours en ligne à des enfants?
Oui, c'est principalement en ligne, je fais pas de présentiel.
Mm-hmm. Comment on fait ? J'ai évidemment fouillé tes profils sur LinkedIn, donc j'ai vu des petites anecdotes assez rigolotes, dont une, celle où le papa courait après l'enfant pour continuer la classe.
Oui, celle-ci, elle était assez drôle. En plus, c'était au début, en fait, quand j'enseignais aux enfants. Le petit, ouais, était vraiment petit, il avait 4-5 ans, donc c'était assez difficile pour lui de rester en place, en sachant que moi, j'aime pas forcément que les enfants restent vraiment complètement assis pendant une heure de cours, ou même 30 ou 45 minutes. On fait toujours des comptines, des petites choses, en fait, où on bouge. Mais c'est vrai que parfois, quand on fait une activité écrite où voilà l'enfant va dessiner, il faut aussi arriver à le garder concentré, et là en fait c'était vraiment pas le cas. Il a commencé en fait à partir de devant l'écran, à courir dans la maison, et du coup son papa le suivait avec l'ordinateur, c'était assez drôle.
Ah oui, j'ai rigolé quand j'ai vu ça sur ton profil, c'est drôle.
Oui, non, c'était vraiment marrant. Après ça va, j'étais pas non plus déconcentrée, donc j'ai pu reprendre le cours après, mais c'est vrai que du coup il a changé de pièce du coup, il était dans sa chambre, et je pense que ouais, le fait que l'environnement aussi soit adapté aux enfants, enfin s'ils se sentent mieux en fait dans leur chambre, plutôt que sur la table voilà, de la salle à manger, bah pourquoi pas en fait, il n'y a pas de souci.
Ah oui, donc c'est flexible, c'est où peu importe, oui. Du moment que l'enfant se sente bien pour participer, oui. Au cours.
Pareil pour le support, ça peut être aussi sur une tablette. Le téléphone, non, parce que voilà, c'est beaucoup trop difficile de suivre sur le téléphone. Mais sur une tablette où justement l'enfant va pouvoir dessiner sur l'écran, va pouvoir faire les activités aussi directement sur l'écran, c'est tout à fait possible. Et sinon, voilà, sur l'ordinateur. Mais voilà, ça dépend des âges. Et le but, c'est qu'ils puissent quand même bouger pendant le cours. Ils ne vont pas rester collés à la chaise pendant tout le cours.
Ah bah oui, j'imagine. Et pour les activités, comment tu utilises, quel type d'activité pour les enfants ? Parce que voilà, pour les adultes, bah, c'est facile, on fait un peu de grammaire, on fait un peu de conversation et tout ça. Et quelles sont les activités que tu conseilles pour enseigner le français à des enfants ?
Alors tout d'abord, ça passe vraiment par le jeu. Enfin, tout ce que je prépare, en fait, c'est vraiment que des jeux, des activités à base de jeux. Et on fait aussi beaucoup de lectures d'histoire, donc la littérature jeunesse, je l'utilise beaucoup. Et du coup, voilà, en fait, on va lire les histoires et ensuite on fait des activités. Donc il y a les collections, en fait, Loup et Petit Loup, qui sont bien connues des enfants en général. Et en fait, ça aborde même les thèmes culturels, par exemple la galette, les crêpes, ce genre de choses. Donc j'utilise les histoires et en fait après on fait des activités qui sont dérivées de celles-ci. Donc ça peut être, tout dépend des âges, graphisme, écriture, un peu d'activité de lecture aussi, questions de compréhension, enfin voilà, en gros.
Et l'activité que les enfants préfèrent, c'est laquelle ?
Alors, c'est vraiment les jeux. Donc, moi, je fais par exemple le jeu du pendu. Bon, je le fais pas comme ça, je le fais sous forme de bonhomme de neige qui fond, parce que bon, c'est quand même plus sympa, je trouve. Donc, on fait le jeu du pendu, donc en fait, où il faut trouver les lettres en fait, hein, de chaque mot. Uh-huh. Les enfants font deviner en fait, un mot aux autres via les lettres. Et il y a aussi, par exemple, le jeu de loi que je fais. En fait, tout est vraiment sur l'ordinateur, hein, donc tout est adapté en termes de support. Et ça permet vraiment voilà, aux enfants de s'amuser. J'ai aussi un dé virtuel que j'utilise, qu'on trouve sur Google, en fait, hein, tout simplement. Et les enfants aiment bien, du coup, lancer le dé. Enfin, c'est moi qui clique, en fait, mais voilà, ils ont l'impression que c'est eux qui cliquent.
Oui.
Et voilà, et du coup, bah, voilà, c'est vraiment, ça passe vraiment par le jeu. Et c'est comme ça, en fait, que j'enseigne le français, du coup, aux enfants.
Super. Je reçois souvent des demandes pour donner des cours à des enfants. Donc, moi, je ne le fais pas du tout. Parce que je l'ai fait au tout début. Donc, comme je te l'ai dit, ça fait 15 ans que je donne des cours de français langue étrangère. Donc, j'ai un peu tout testé. Et donc, ce sont les cours en groupe, les cours particuliers et aussi les cours à des enfants. Et j'ai jamais trouvé la méthode. Et comme tu dis, ben voilà, les jeux et tout ça, enfin, c'est vraiment pas quelque chose que je fais. Mais je reçois quand même des demandes pour des cours en groupe et pour des cours pour des enfants. Et je ne sais jamais vers qui réorienter les parents. Parce qu'en fait, là en l'occurrence, ce sont les parents qui me contactent pour donner des cours pour leurs enfants. Quels sont les conseils que tu pourrais donner aux parents qui souhaiteraient que leurs enfants apprennent le français ?
Alors du coup, en fait, il y a déjà deux choses différentes. C'est que ça dépend si les parents ou un des parents est français. Parce que du coup, là, ça va être le flamme, le français langue maternelle pour les enfants, et du coup c'est pas la même chose que le FLE qu'on enseigne voilà, aux personnes qui n'ont jamais appris le français avant, même s'ils sont enfants, s'ils n'ont jamais entendu le français depuis qu'ils sont nés, enfin voilà, c'est vraiment pas du tout la même chose. Donc du coup déjà voilà, faut faire la différence entre les deux. Et donc si c'est du flamme, Ce que je conseille déjà, c'est aux parents de vraiment de parler français, voilà, à la maison. Surtout pour les parents qui se retrouvent du coup à l'étranger, qui sont expatriés. Et là, du coup, des fois, il y a une autre langue qui arrive forcément dans le nouveau pays. Donc, des fois, ça peut être difficile de maintenir vraiment le français à la maison. Donc, déjà, voilà, parler français aux enfants, lire des histoires aussi avec eux tous les jours, si c'est possible, même si c'est quelques minutes, vraiment en faire une routine. Voilà, et pour les autres, du coup, les autres parents qui ne, voilà, ils vont pas forcément maîtriser eux-mêmes le français, mais ils veulent que leurs enfants parlent français. Là, franchement, oui, ça passe par des cours ou même des activités directement sur interactives, en fait, à regarder et à écouter. Et puis voilà, participer du coup à des cours aussi, bien sûr.
Excellent. Alors, tu sais, Nathalie, moi, j'ai commencé à lancer les interviews du podcast parce que je voulais apprendre d'autres choses. Donc, il y a plein de choses que je ne connais pas. Et là, je viens de découvrir quelque chose grâce à toi. Donc, le flam, je ne connaissais absolument pas. Donc, tu vois, on en apprend tous les jours. Merci, merci. Donc, ça, c'est uniquement pour les personnes dont un des parents est francophone, hein, c'est ça ?
Oui, exactement. En fait, c'est ça. C'est vraiment le français langue maternelle. Donc, quand un des deux parents est français, parle français en tout cas à son enfant depuis qu'il est vraiment petit, hein, depuis tout petit, avant la naissance même, c'est possible. Et du coup, là, c'est vraiment la langue maternelle de l'enfant quand même. Même si, par exemple, elle n'est pas parlée au quotidien, ça reste quand même la langue maternelle. Donc, c'est pas la même chose que le FLE.
Est-ce qu'on peut avoir deux langues maternelles, selon toi ?
Oui. Oui, franchement, oui, c'est sûr, parce que les enfants qui sont justement bilingues, moi j'adore ces questions-là du bilinguisme et de voir comment les enfants apprennent deux langues, trois, quatre, enfin c'est impressionnant, depuis tout petit. Par exemple, des parents, voilà, un parent qui est français et l'autre qui est par exemple italien, espagnol, anglais, enfin peu importe. Tous les deux langues sont en général enseignées à l'enfant, en tout cas, c'est pas vraiment de l'enseignement, c'est vraiment juste une transmission naturelle, comme nous on apprend notre langue maternelle. Du coup, oui, c'est bien sûr possible d'en apprendre deux ou trois dès la naissance, oui.
Très, très intéressant. Et donc, que ce soit du FLAM, donc français langue maternelle, ou du FLE, français langue étrangère, est-ce que tu as des conseils, par exemple, par rapport au rythme ou la durée de la classe ou le nombre de cours par semaine pour les enfants ?
Oui, alors en fait, je parlerai pas forcément en termes d'heures par semaine, parce que du coup, c'est pas vraiment le nombre d'heures qui... En tout cas, moi, je pense que c'est comme ça, c'est pas forcément le nombre d'heures qui impacte, c'est plus vraiment si c'est vraiment régulier, constant. En fait, moi, mon idée, c'est vraiment que 5 minutes par jour, déjà, ça suffit pour vraiment maintenir le français, juste faire une petite activité, et je sais que les parents, les enfants sont très occupés, donc vraiment inclure des petites choses dans la routine directement, et pas forcément directement un cours, en fait, c'est ça. Et du coup, entre les deux, par rapport au FLAM ou au FLE, il n'y a pas une grande différence, en fait, voilà, en termes de temps, mais par contre, ça sera au niveau des méthodes qui ne seront pas les mêmes. Par exemple, pour le FLE, j'utilise les méthodes vraiment de français langue étrangère pour enfants, donc par exemple Tip Top, qui est bien connu, les petits loustiques, les loustiques, ça c'est vraiment des méthodes de FLE, en fait, de français langue étrangère pour les enfants. Tandis que le FLAM, moi c'est vrai que j'utilise beaucoup plus la littérature jeunesse, comme en fait ce que les enfants feraient en France à l'école, voilà en fait tout ce qu'ils apprennent en termes de graphisme, lecture, c'est, du coup ça suit un petit peu plus ce genre de programme.
Ok, et y a une durée, donc tu disais il n'y a pas de temps, c'est pas vraiment d'heures par semaine, mais par exemple un enfant qui commence de zéro, il ne connaît absolument rien de la langue française. Tu recommanderais, par exemple, de faire pendant plusieurs mois ou à l'année ?
Oui, bien sûr. Oui, c'est sûr que déjà 6 mois, c'est le minimum pour un enfant qui n'a vraiment jamais entendu parler le français au quotidien ni quoi que ce soit, qui commence vraiment de zéro. Oui, c'est sûr que là, oui, il faut quand même des heures par semaine. Si on veut un résultat, en fait, ça dépend aussi des objectifs. Est-ce que c'est juste d'inclure une nouvelle langue dans le quotidien ? Du coup, là, ça se fait petit à petit. Est-ce que c'est parce que les parents vont arriver en France ? Donc là, voilà, il faut peut-être préparer pour l'école, que ça soit la lecture, l'écriture. Donc ça dépend vraiment des objectifs. Mais voilà, si c'est pour, par exemple, pouvoir se débrouiller en français, oui, 6 mois, 1 an, c'est vraiment le minimum pour que l'enfant déjà ait appris toutes les bases et puisse vraiment s'exprimer en français, écrire correctement et lire aussi.
Est-ce que tu as déjà entendu des histoires de personnes, par exemple, qui avaient appris le français ou une autre langue étrangère quand ils étaient très, 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 très jeunes et qui, oui, après, n'ont pas pratiqué la langue ou n'ont pas été exposés à la langue et qu'ils ont tout oublié ?
Oui.
Et oui, dans ces cas-là, qu'est-ce que ces personnes peuvent faire pour... je vais dire récupérer, je ne sais pas si on peut dire vraiment récupérer, mais retrouver.
Oui, oui. En fait, oui, donc si c'est vraiment enfant, je pense que la personne, elle a quand même acquis les choses, elle s'est inscrite dans son cerveau, enfin c'est sûr. Donc ça sera plus, c'est ça un peu un rappel en fait. Mais du coup, oui, certainement, il faudra reprendre toutes les bases, même des fois la prononciation de l'alphabet, etc. Si la personne a vraiment oublié. Oui, après, c'est des choses justement qui peuvent revenir assez vite si jamais la personne vraiment a entendu parler français quand elle était petite et voilà, si elle a beaucoup écouté et parlé aussi quand elle était petite. Mais je pense que ça dépend aussi des cas, forcément. Si la personne a tout oublié, oui, il faut recommencer quand même.
Parce que pour les publics adultes, il y a très souvent des personnes, par exemple, qui ont pris des cours quand ils étaient adolescents ou à un moment donné, mais ils ont fait des très longues pauses, hein, n'est-ce pas?
Oui.
Toutes les personnes qui écoutent ce podcast, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont fait des pauses. Et parfois, les pauses, tant qu'on n'a pas atteint le niveau B2, c'est compliqué parce qu'évidemment, on risque d'oublier. Mais je dis toujours à toutes les personnes qui ont appris le français à un moment donné, ça revient. Ça revient
oui,
si on a de bonnes méthodes, si on est bien accompagné. Tout ce qu'on a appris à un moment donné revient d'une manière ou d'une autre, peut-être avec une autre structure, peut-être avec une autre forme, mais ça revient. On oublie un petit peu, mais le plus important revient toujours. C'est comme le vélo, en fait.
Oui, c'est ça. Oui. Non, mais c'est sûr, ça revient. Surtout si ouais, la personne elle a appris vraiment toute petite, c'est encore mieux, je pense, parce que le cerveau vraiment a encore plus inscrit. Et voilà, si c'était juste des pauses, par exemple, oui, bien sûr, c'est possible de reprendre. Et bien sûr, l'acquisition du coup des bases, elle sera, voilà, ça sera encore plus rapide en fait en termes de progrès.
J'ai une autre question concernant ton travail et tout ça, surtout avec les enfants. Pourquoi les enfants ?
Alors ça, c'est assez drôle. En fait, moi, j'étais vraiment pas dans l'enseignement à la base. Enfin, je savais pas du tout que j'allais enseigner. Je peux, du coup, voilà, raconter un petit peu mon parcours, du coup.
Mm-hmm.
En fait, en 2017, du coup, j'ai fait un service civique juste avant d'entrer en licence.
Service civique, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est pour les personnes qui nous écoutent ?
Oui, bien sûr. En fait, c'est un dispositif français d'encouragement à l'engagement de citoyenneté et de soutien public. C'est encadré du coup par le ministère de l'Éducation nationale en France et c'est un peu comme un statut de volontaire, de bénévole. Et en fait, il y a une indemnité qui est versée en fait chaque mois si on s'engage de cette manière et ça dure à peu près 6 mois. Je crois qu'on peut prolonger aussi. Mais voilà, là, je l'avais fait en 2017. C'était vraiment juste après le bac et puis avant d'entamer mes études à Paris en licence. Et du coup, là, j'ai commencé à enseigner. Bah, j'étais jeune, du coup. Et c'était vraiment la toute première fois, ma toute première expérience dans l'enseignement. Parce qu'en fait, j'étais dans un centre en fait, interculturel de conseil, de formation, de médiation. Donc, pour des personnes voilà, qui étaient réfugiées, qui avaient besoin d'aide, autant pour leurs papiers que voilà, tout ce qui est médiation culturelle, en fait. Et du coup, aussi de cours de français pour réfugiés. Et donc là, c'était des adultes à ce moment-là, mais je faisais aussi de l'aide aux devoirs pour les enfants, du coup, de ces personnes qui étaient réfugiées, donc qui n'étaient pas nées, en tout cas en France. Et donc là, voilà, j'ai commencé à enseigner comme ça. Franchement, c'était pas évident. J'étais pas toute seule, donc on était toujours deux dans les classes. Voilà, j'étais avec une autre prof aussi. Donc j'ai commencé à enseigner comme ça. Après, j'ai pas continué à enseigner parce que voilà, j'étais dans mes études, donc j'ai fait une licence LLCER, donc c'est en fait langue, littérature, civilisation régionale. Et c'était du coup en arabe oriental à l'INALCO à Paris. Donc l'arabe oriental, en fait, voilà, c'était l'arabe littéraire et les dialectes libanais et égyptiens. Et en fait, je suis partie en échange universitaire au Liban. La moitié de ma licence, en fait, à peu près. Et du coup, c'est là-bas, en fait, que j'ai vu que bah, ouais, beaucoup de personnes voulaient vraiment apprendre le français, l'apprenaient déjà depuis tout petit, parce qu'en fait, les Libanais apprennent le français, l'anglais et l'arabe dès tout petit. Et donc, je me suis dit, ouais, c'est incroyable. Enfin, ils sont vraiment passionnés, même par la France, pour certains. Donc, c'est là, vraiment, où j'ai vu ouais, que les gens étaient attirés par le français. Et puis, du coup, là, j'ai continué. Donc, j'ai fait mes semestres d'échange. Moi, j'apprenais l'arabe. Et puis, en fait, en dernière année de licence, je ne savais pas trop quoi faire, en fait. Après, je voulais encore continuer mes études, mais franchement, je ne savais pas comment ni faire quoi. Donc, j'ai fait, en fait, un diplôme universitaire de FLE. Pour pouvoir entrer en master, c'était avec l'université de Grenoble-Alpes et du coup c'était à distance, donc c'est avec le CNED aussi. Donc je l'ai fait depuis le Liban, voilà, vraiment complètement à distance, hein. C'était des cours en ligne. Et ce qui était super intéressant, c'est que dans ce diplôme, pour avoir le diplôme, il fallait faire une expérience justement d'apprentissage d'une nouvelle langue. Donc j'ai pris des cours d'allemand du coup à l'USEC, donc l'université au Liban, voilà, c'est l'université Saint-Esprit de Caslik. Là-bas j'ai pris voilà, des cours d'allemand. Pour pouvoir valider, en fait, faire tout un rapport sur l'apprentissage d'une nouvelle langue, bah, voilà, voir un peu comment la prof enseigne, comment ça se passe dans la classe, quels sont les challenges quand on apprend une nouvelle langue, parce que voilà, fallait vraiment une nouvelle langue qu'on ne connaissait pas, donc même si j'avais commencé l'arabe, là, ça marchait pas, fallait vraiment voilà, une toute nouvelle langue.
Donc oui, à voilà. Zéro, l'allemand de base, moi je parle pas allemand, hein, donc...
donc ouais, vraiment de complètement zéro, j'avais vraiment, enfin non, même pas bonjour, franchement, je savais même pas. Donc oui, j'ai commencé ça, bah, c'était assez sympa franchement. Donc ça c'était pendant ma dernière année de licence, Et du coup, je suis rentrée en fait fin 2019 en France pour reprendre du coup le dernier semestre en fait de ma licence à Paris. Et voilà, 2020 du coup le Covid forcément. Donc tout a été en ligne, les examens aussi. Voilà, mon dernier semestre de licence était en ligne aussi avec le ce DU. En 2020, j'ai été diplômée de la licence et du DU pour pouvoir rentrer du coup en master. En fait, voilà, je savais pas vraiment quoi faire, mais finalement, quand j'ai commencé à voir comment le français était en tout cas intéressant pour des personnes qui vivent partout dans le monde, je me suis dit, bah voilà, pourquoi pas me lancer dans dans ce master en tout cas.
Et donc là, c'est le master de FLE que tu as fait à Grenoble, hein, c'est ça?
Non, du coup, je ne l'ai pas fait à Grenoble. Ça, c'était juste le DU, le diplôme universitaire. Mais du coup, non, après le master, je l'ai fait en fait avec l'université du coup du Mans. J'ai vraiment choisi celle-ci parce que c'était à distance complètement. Et donc, à la rentrée 2020, je suis repartie en fait vivre au Liban. Mon mari est libanais, en fait, donc du coup...
Oui, j'allais poser la question, quel est le lien avec le Liban? Mais ok, d'accord, il y a un amoureux.
Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Du coup, je l'ai rejoint là-bas et donc voilà, ça m'a permis en fait de faire mes 2 années de master depuis le Liban en fait, mais avec l'université en France. En début 2021, j'ai dû chercher un stage du coup et c'était en ligne avec le Covid. Donc voilà, pour enseigner le français, j'ai postulé un petit peu partout et en fait, j'ai trouvé une école maternelle en ligne à New York qui proposait des cours pour les enfants. Je me suis dit, bah, je tente, pourquoi pas, on essaye. Et puis, du coup, voilà, j'ai commencé comme ça, en fait, en stage. Donc, j'avais vraiment jamais enseigné aux enfants avant et encore moins en ligne. C'était vraiment ma toute première expérience comme ça avec les enfants. Donc, au début, vraiment, c'était très difficile. Je scriptais, en fait, tout le cours. Genre, même bonjour, je l'écrivais, je prenais des notes à côté de mon écran. C'était horrible. Et surtout qu'avec les enfants, il faut chanter. Donc, enfin, voilà, c'était vraiment un vrai challenge. Voilà. Et puis après, c'est vrai que c'est venu bah, petit à petit. En fait, je suis vraiment devenue plus à l'aise pour pouvoir voilà, chanter aux enfants. Et puis pouvoir, voilà, même si voilà, il se passe quelque chose dans le cours, l'enfant n'est plus attentionné. Enfin, voilà, toujours trouver des petites solutions pour reprendre la concentration. Mais voilà, du coup, c'était en 2021.
Ok. Donc, en fait, c'est un peu par hasard que tu as trouvé cette école qui était spécialisée dans l'enseignement des enfants et tu t'es dit bah voilà, allons-y, on verra bien. C'est hyper intéressant, c'est super inspirant parce que on a toute une histoire avec le français de langue étrangère. Par exemple, moi j'ai détesté l'école, j'étais une très très mauvaise élève et donc rien, absolument rien sur cette planète aurait pu imaginer que je devienne un jour professeur. Et un jour j'ai une amie quand j'habitais en Espagne qui avait besoin d'être remplacée pour donner un cours de conversation à un niveau avancé. Et elle m'a dit, il faut que tu me remplaces parce que je dois partir et cet élève a un examen à passer, donc remplace-moi. J'ai dit, mais jamais de la vie, je vais donner un cours de français. Et elle m'a dit, t'es obligée, t'es mon amie, donc tu dois m'aider, tu dois le faire. Donc j'ai donné ce cours qui s'est hyper bien passé. Et puis voilà, 15 ans plus tard, je suis toujours là. Mon amie n'est pas devenue professeure de français, elle a arrêté parce que pour elle, c'était vraiment un job alimentaire. Et moi, finalement, j'en ai fait toute ma carrière. Donc,
D'accord. Ouais, merci toi aussi, quoi.
Voilà, donc c'est un peu comme toi avec cette école, tu te dis bon, je vais tester et puis finalement bah ça ouvre plein de portes. Donc c'est bien de sortir de sa zone de confort, c'est super inspirant. Donc tu termines cette expérience en 2021 et puis après comment tu crées ton école? Tu as travaillé pour d'autres écoles ou directement tu t'es dit non, moi je veux travailler pour moi? Qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, alors et pareil, en fait, pour l'entrepreneuriat, c'est vrai que ça m'est tombé dessus aussi un petit peu parce que, voilà, je savais vraiment pas quoi faire, en fait, avant. Hein, donc, ni en termes, voilà, de quel genre de contrat, quel genre de travail, vraiment, je ne savais pas. Et du coup, c'est petit à petit, en découvrant ça, donc déjà, l'enseignement aux enfants, j'ai vu vraiment que ça me plaisait. Surtout toute la partie créative, en fait, où, voilà, faut créer les contenus, rechercher les petites histoires pour les enfants, les activités, enfin, j'adore ça. Et du coup, donc, j'ai cherché aussi d'autres contrats pour pouvoir travailler parce que, du coup, j'ai dû ouvrir ma micro-entreprise, donc en 2021. Voilà, pour pouvoir bah, travailler avec d'autres... Après mon stage, en fait, directement, travailler avec l'école et puis avec d'autres contrats aussi. Donc, j'ai travaillé pour des instituts français, Alliance française aussi, pour les enfants et des organismes de formation professionnelle aussi pour les adultes. Et puis, bah, en fait, dès le début, je me suis dit vraiment, c'est vraiment ce qui me plaît. Et dès le début aussi, j'avais envie de créer mon projet à moi. J'avais déjà plein d'idées, en fait. Mais du coup, il fallait que je termine mes études aussi. J'avais pas mal de boulot. Donc, déjà, terminé la première année de master et la deuxième, toujours depuis le Liban. Et cette année-là, elle était très chargée, donc voilà, 2021-2022, parce qu'avec le mémoire, c'était vraiment, vraiment beaucoup de boulot, donc je pouvais pas du tout me consacrer, en plus de tous les cours que je donnais, à mon projet. Donc voilà, je me nourrissais quand même pour avoir toujours mes idées, je notais tout. Je savais que j'allais pouvoir le faire un jour, mais du coup, voilà, j'attendais vraiment d'avoir terminé mes études. Et puis d'ailleurs, mon mémoire, c'était en fait sur l'utilisation des technologies éducatives pour l'enseignement du français aux enfants bilingues. Donc c'était vraiment très précis sur vraiment le thème qui me passionne. Et voilà, donc en 2022, j'ai terminé mon mémoire, mon master. Et à ce moment-là aussi, on est venu en fait en France avec mon mari. Donc moi, je suis rentrée en France, mais il est venu pour vivre en fait. Donc voilà, on s'est installé en fait en Bourgogne. On a très vite déménagé ici dans le sud, à côté d'Aix-en-Provence. Et du coup, voilà, on est installé ici depuis 2022.
Vous parlez quelle langue à la maison ?
On parle français, parce que du coup, au tout début, en fait, quand je l'ai connu, du coup, bah, moi, je parlais pas du tout arabe. L'anglais, bon, ça allait, mais c'était pas génial. Et lui, du coup, bah, il parlait déjà les trois langues parce qu'il a tout appris quand il était petit. Et par contre, il a travaillé plutôt en anglais. Ses études étaient en anglais aussi, donc forcément, le français n'était plus à la première place, mais on a commencé à communiquer comme ça en français. Petit à petit, lui aussi, s'est amélioré, son accent, voilà, ça a changé aussi. Il roulait les R, par exemple, au début, après, donc non.
Mais ah, ça a pris du temps. Vrai. Oh, trop mignon.
Et du coup, non, en fait, on parle vraiment en français, c'est ce qui est naturel pour nous. Même si je comprends l'arabe et je le parle aussi un petit peu, mais c'est vrai que c'est pas naturel du tout si on parle en anglais ou en arabe, en tout cas pour nous.
Est-ce que tu pratiques un petit peu ton arabe en ce moment en France ou c'est difficile parce que t'es loin de la langue et du pays?
Oui, du coup, quand j'étais au Liban, c'était quand même plus facile. Après, c'est vrai que tout le monde parle français, donc ils ont tendance à voilà, vouloir te parler en français. Mais par contre, dans la famille, c'est vrai que tout est en arabe. Enfin, du coup, j'entends tout le temps. Je peux participer un peu, mais c'est vraiment... Enfin, je pratique beaucoup moins aujourd'hui, donc du coup, c'est plus difficile depuis la licence. Mais c'est vraiment mon objectif aussi de pouvoir... bah voilà, j'ai quand même tout appris, toutes les bases, donc juste pouvoir pratiquer plus. C'est sûr que voilà, tant qu'on pratique pas, on perd, en fait. Donc, il faut absolument pratiquer.
Oui, il faut pratiquer. Moi, je dis toujours à tous mes élèves, toutes les personnes qui me suivent, il faut jamais arrêter avant le niveau B2, niveau avancé ou intermédiaire. Bon, certains professeurs disent que le B2, c'est intermédiaire. D'autres, ils disent que c'est avancé. Peu importe, le B2. Donc, après le subjonctif et les hypothèses, il ne faut absolument pas faire de trop longues pauses avant d'avoir atteint ce niveau parce qu'après... on oublie et puis moins on pratique, de toute façon le cerveau a tendance à mettre un peu loin les choses qu'on n'utilise pas, donc oui, je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu pourrais parler donc un petit peu, donc voilà, t'as commencé à expliquer l'entrepreneuriat, ton école, comment tu as choisi ce nom?
Alors, Voyelia, du coup, ça vient de voyelle. En fait, je cherchais vraiment un mot qui ressemble, enfin, qui parle en fait de la langue. Et je cherchais, franchement, ça m'a pris du temps. Du coup, voilà, d'un coup, je me suis dit, en fait, ouais, Nathanaël, voyelle, ça rime. de la fin. Et du coup, bah voilà, je me suis dit, pourquoi pas Voyelia. Et avec le tréma, du coup, sur le E, comme dans mon prénom, ça me tenait vraiment à cœur. Et voilà, en fait, directement, j'ai vu, voilà, le nom correspondait très bien. Enfin, c'était joli à dire aussi. Donc, voilà, c'est comme ça, en fait, le choix.
C'est très joli. J'aime beaucoup. Je valide. Même si tu ne m'as pas demandé mon avis, je dis qu'il est très, très beau. Et puis, c'est vrai, ça fait un rappel avec ton prénom qui est évident. Donc, quand j'ai vu ton profil, j'ai vu le nom de ton école, on fait le lien immédiatement avec ton prénom. C'est très beau. Nathanaël, avant de te laisser partir, je pose toujours la même question à chacun de mes invités. Si tu devais donner un seul conseil à une personne qui a envie d'apprendre le français ou qui a envie d'améliorer son français, quel serait-il ?
Moi, je dirais vraiment d'être régulier et constant parce qu'en fait, si on le fait un petit peu chaque jour, c'est sûr que ça apporte des progrès, mais c'est surtout qu'en fait, il faut trouver un intérêt et savoir pourquoi on le fait. Enfin, des fois, voilà, on arrive en France, on ne sait pas trop voilà, comment apprendre le français, etc. Mais essayer de le lier peut-être, par exemple, avec des passions, des centres d'intérêt, et vraiment, voilà, de pouvoir essayer de pratiquer tous les jours, même lire un petit peu, écrire un peu, pourquoi pas, voilà, envoyer des voice notes à des personnes qui sont françaises, vraiment le faire un petit peu tous les jours. Je pense que c'est une bonne chose pour pouvoir vraiment progresser.
Je suis d'accord avec toi, c'est génial, c'est un très très bon conseil. Être régulier, il faut absolument être régulier de toute façon. Le cerveau, il n'aime pas les choses qui sont irrégulières, donc c'est un très très bon conseil. Nathanaël, pour les personnes qui ont envie de continuer cette conversation avec toi ou qui ont des enfants ou qui ont envie d'apprendre le français avec toi, où est-ce qu'ils peuvent te contacter?
Sur Instagram, c'est possible, sur voilà, mon pseudo, donc nathanaël.bl. Et du coup, voilà, je poste pas mal de choses, particulièrement pour les parents expatriés, pour maintenir vraiment le français à la maison et pouvoir voilà, consolider en fait tout ça. Et c'est possible aussi sur mon site, voyelia.com. Du coup, voilà, tout est expliqué. En fait, c'est aussi un organisme de formation professionnelle. Donc, pour les personnes qui travaillent, par exemple, en France, c'est possible aussi de nous rejoindre parce que voilà, j'ai la certification Calliope aussi. Donc, voilà, c'est vraiment possible d'apprendre le français. Et mon but de développer aussi d'autres langues et voilà, partager vraiment l'apprentissage, mon amour pour l'apprentissage, en tout cas, la curiosité et tout ça. Donc, c'est possible, voilà, sur le site et puis sur Instagram.
Magnifique. Tous les liens, de toute façon, sont dans les notes de cet épisode. Donc, n'hésitez pas à faire un petit coucou à Nathanaël et regarder le site internet de son école. Nathanaël, merci infiniment d'avoir accepté cette invitation dans l'épisode et dans le podcast. C'est vraiment super intéressant.
Merci, merci Yasmine. Merci beaucoup, c'était super cool.
Merci, merci. Salut.
Salut, à bientôt.
Tu veux continuer cette conversation avec moi? Je te donne rendez-vous sur le site de l'école islandfrench.eu. À bientôt!